Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer sans plus attendre parce que la température le justifie d'autant plus. Depuis un certain nombre d'années, j'ai l'honneur et l'avantage de présenter des auteurs invités par Denis Mola et la librairie Mola. Et j'ai rarement vu une salle aussi pleine, Thomas Piketty. Voilà. Alors Thomas Piketty, j'allais dire, on ne vous présente pas ou on ne vous présente plus. Mais quand même, je crois que ça me permettrait de vous présenter brièvement, puis vous corrigerez bien sûr si je fais des erreurs dans votre biographie. Très rapidement, vous êtes né un 7 mai, hein, ça c'est assez c'est intéressant, je vais dire, par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur les conséquences et sur ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale. 7 mai 1971, en région parisienne, vos parents, si j'ai bien lu les éléments biographiques, vont faire d'ailleurs un passage à élever des chèvres dans l'Aude. C'était Limoux, Carcassonne, c'était dans quel coin
À côté de Lézignan-Corbière, Carcassonne, Narbonne.
Lézignan-Corbière, ça c'est dans votre enfance et vous êtes un excellent élève, je crois d'ailleurs avec, comme on dit, une bosse des maths assez développée. Vous passez votre baccalauréat très jeune, vous intégrez Normale Sup à l'âge de 18 ans et puis à 22 ans, après avoir fait une prépa Sup-SP, comme on dit, et à l'âge de 22 ans, vous soutenez votre thèse de sciences économiques qui va être d'ailleurs salué immédiatement avec un prix. Et vous partez en 2002 au MIT. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est tout à fait amusant dans l'introduction, j'étais aux États-Unis, j'étais au MIT, j'avais qu'une envie d'ailleurs, c'était de rentrer.
Alors, c'était en 93,
c'est 93 parce que ça commence mal sur la maîtrise des mathématiques. Hein. 71 et 22, ça fait 93, merci. Ouais. Et donc vous êtes. Vous avez cette faculté, j'allais dire, de jouer avec la science économique, dont, à l'égard de laquelle vous êtes évidemment pas du tout tendre et très précis dans les critiques. On va y revenir dans votre ouvrage. Quand vous revenez en France, vous allez fonder, après avoir été intégré au CNRS, vous allez fonder l'école d'économie de Paris, dont vous allez quitter la direction parce que vous vous engagez en 2006-2007 aux côtés de Ségolène Royal dans la dimension un peu politique.
Oui, alors là, je me permets quand même de vous couper. C'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai quitté la direction. J'ai quitté la direction pour retourner à la recherche parce que j'avais pas l'intention d'être gestionnaire de l'école pendant. Fait pendant 3 ans. Ça m'a pris, ce qui était déjà beaucoup trop. Donc ça n'avait rien à voir avec l'élection de 2007. Mais voilà, je sais que ça s'écrit.
D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous dites d'ailleurs que cette école, quelque part, c'était un peu votre, je ne dis pas votre Graal, mais l'école de Brodel, l'école de Lévi-Strauss, hein, cette école qui part dans son code génétique, si je puis dire, est pluridisciplinaire et rassemble la totalité des sciences sociales. D'une certaine façon, j'allais dire, votre livre, il est presque la métaphore de cette école. En tous les cas, c'est un livre qui est extrêmement complet, qui est un livre qui n'est pas simplement qu'un livre d'économie, et c'est un livre, d'ailleurs vous dites vous-même, ce livre aurait tout aussi bien pu être un livre d'histoire, c'est plutôt un livre d'histoire plutôt qu'un livre d'économie, et vous vous êtes attaqué à quelque chose de tout à fait incroyable, hein, essayer de traiter, d'embrasser, on va dire, 200 ans hein, d'histoire économique, et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous le dites aussi à la conclusion, dans votre conclusion, vous plaidez pour un retour d'un terme qui vous dites qui peut paraître un peu désuet, qui est l'économie politique. Alors, on va revenir sur tout cela. Votre livre, page 68, vous dites il aurait pu s'appeler Le Capital à l'aube du 21e siècle, et non pas Le Capital au 21e siècle. Vous nous allez nous dire pourquoi vous avez finalement peut-être maintenu ce titre, ou est-ce que c'est peut-être une volonté d'éditeur, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve tout à fait intéressant, et je le dis tout de suite, parce que, évidemment, on lit un livre de 950 pages, avec en plus, dès l'introduction, un renvoi sur un site internet où il y a toute une série d'arguments, de preuves, hein, de séries chiffrées, etc. Bon, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette compilation aujourd'hui, pour vous donner une idée, hein, les livres de 950 pages, 1000 pages à l'université, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, c'est ce qu'on appelait jadis les mélanges en l'honneur de tel ou tel professeur, hein, ça se faisait beaucoup en particulier dans les facultés de droit d'ailleurs et de sciences économiques. c'est littéralement imbuvable, et quand je dis imbuvable, je reste très poli, hein, parce que c'est une accumulation de chapitres et de contributions qui n'ont souvent aucun rapport ensemble et qui sont pas, qui n'ont pas de lien. Là, c'est tout l'inverse. J'ose le dire, ça va peut-être vous paraître un peu étonnant, peut-être aussi à vous, Thomas Piketty, mais ça se lit presque comme un roman. C'est d'une facilité de lecture qui est d'autant plus à noter que par définition, évidemment, le sujet est ardu. Et quand on est dans le livre, on se dit « mais voilà le professeur d'économie que j'aurais aimé avoir hein ». J'en ai parlé ce matin avec quelqu'un que vous connaissez certainement de nom, qui vous transmet ses habitudes, qui s'appelle Pierre Delfaux, qui a été mon professeur d'économie. Et Pierre Delfaux me disait Thomas Piketty, j'ai toujours apprécié tout ce qu'il a pu écrire, maintenant il est émérite. Et moi, je suis tout content parce que page 64, ça va peut-être parler à un certain nombre d'entre vous, mais je suis certain qu'il y a beaucoup d'experts parmi vous. Page 64, c'est pratiquement la première fois qu'un auteur pense à moi. En tous les cas, je l'ai pris pour moi. J'aimerais en vérité que les spécialistes, comme les amateurs de toutes les sciences sociales, trouvent quelque intérêt aux recherches exposées dans ce livre, à commencer par tous ceux qui disent ne rien connaître à l'économie. Donc, je me suis dit, ça, c'est une spéciale dédicace, c'est très gentil, mais qui ont souvent des opinions très fortes sur l'inégalité des revenus et des fortunes, ce qui est bien naturel. Alors, moi, je ne suis un modeste politiste qui fait partie de ces sciences sociales dont vous dites pourtant qu'il faut à tout prix les convoquer et les associer aux travaux de la recherche en sciences économiques. Mais évidemment, qu'on soit bien d'accord, je suis là dans le rôle du candide et du non-sachant par rapport à vous. Alors, ce livre, il est structuré en 4 grandes parties, 16 chapitres, une introduction de 70 pages, une conclusion extrêmement ramassée qui, moi, m'a pris quand même 5 pages de notes serrées, mais qui est un excellent condensé du texte. Dans votre introduction, vous avez un passage, vous dites finalement, ma thèse centrale, voilà, nous sommes au début du 21e siècle, dans la même situation que les observateurs du 19e siècle. Nous assistons à d'impressionnantes transformations. Il est bien difficile de savoir jusqu'où elles peuvent aller et à quoi ressemblera la répartition mondiale des richesses entre les pays, comme à l'intérieur des pays, à l'horizon de quelques décennies. Vous dites finalement, lorsqu'il est... Vous allez certainement me corriger, mais il est facile de faire du revenu avec du patrimoine. Il est pratiquement impossible de faire du patrimoine avec du revenu.
Oui, je l'avais pas écrit comme ça, mais on peut. C'est une façon de. Non, c'est une façon de.
C'est pas une trahison.
Non, on peut résumer une partie de ce que je trouve de cette façon. Bon, je voudrais d'abord, merci pour cette lecture très attentive de l'introduction, et puis merci de m'avoir invité ici à Bordeaux. Je suis très content de venir dans cette librairie dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je n'avais jamais vue, et je suis content de l'avoir au moins parcourue et de pouvoir m'exprimer ici. Ce livre, c'est vrai que c'est plus un livre d'histoire que d'économie, dans le sens où j'essaye de raconter l'histoire des patrimoines et des structures sociales et des structures d'inégalité qui vont avec depuis la révolution industrielle. Dans une vingtaine de pays, alors il y en a 5 ou 6 qui sont plus couverts que les autres, mais en essayant de traiter un très grand nombre de pays. Donc c'est vrai que le titre est un peu étrange pour le capital au XXIe siècle, et c'est vrai que il aurait été plus juste de l'appeler le capital à l'aube du XXIe siècle. Bon, c'est simplement pour faire un titre plus court, je crois que j'ai choisi le capital au XXIe siècle. En vérité, je suis évidemment totalement incapable de prévoir la forme que prendra le capital en 2063 ou en 2113. Et je fais dans l'introduction la comparaison avec le XXe siècle. Quelqu'un qui en 1913 aurait voulu écrire un livre sur le capital au XXe siècle aurait eu bien du mal à prévoir ce qui allait se passer, les guerres mondiales, la révolution bolchevique, les nationalisations de 1945, enfin toutes sortes d'événements de la grande histoire du XXe siècle, mais qui rejaillissent sur l'histoire du capital, puisque c'est peut-être ça la chose la plus importante que ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de montrer à quel point enfin, il n'y a pas d'histoire strictement économique et que l'histoire, cette histoire des revenus et des patrimoines, c'est forcément une histoire qui est indissociablement économique, politique, culturelle, sociale, salariale, et que à découper les sciences sociales en morceaux, on n'arrive pas, on peut pas traiter de questions de cette sorte. Donc moi, je me vois d'abord dans ce livre comme essayant de faire mon travail de chercheur en sciences sociales, et les coupures entre économie, sociologie, histoire me semblent souvent assez arbitraires. Et donc c'est vrai que je suis très critique par rapport à une mathématisation excessive de l'économie. Oui. En même temps, dans ce livre, il y a quelques petites équations très légères. C'est-à-dire qu'il y a, je dis pas que toute théorie est inutile. Simplement, je pense que la théorie doit être utilisée avec beaucoup de parcimonie. C'est ça que je.
On va commencer par une très simple. Vous dites le problème devient de plus en plus difficile quand R est supérieur à G. Alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là, on est au cœur du livre, en fait. Alors, qui est R,
oui,
qui est
alors,
G,
donc,
et qu'est-ce qui se passe ?
Donc G, c'est le taux de croissance. Donc, c'est ce dont on entend parler tous les jours. Est-ce que la croissance donc, du PIB, qui est la production intérieure d'un pays, qui est en gros la même chose que le revenu national d'un pays ? Alors, pas exactement, parce qu'un pays qui posséderait beaucoup de choses à l'étranger pourrait avoir un revenu supérieur à sa production. Inversement, un pays qui est possédé par l'étranger a un revenu inférieur à sa production. Donc, le revenu et la production ne sont pas exactement la même chose. Mais dans des pays comme la France, le revenu et la production sont assez proches, parce qu'on est, contrairement à une légende tenace, on n'est pas encore possédé par le reste du monde. Ça viendra peut-être, mais on en est très loin. Et dans notre histoire, on a surtout été dans une position de posséder une bonne partie du reste du monde et d'avoir un revenu supérieur à notre production. Enfin, toujours est-il que le taux de croissance, G, c'est le taux de croissance de la production et aussi, grosso modo, du revenu. R, c'est le rendement du capital, c'est-à-dire ce que rapporte un patrimoine en moyenne au cours d'une année. Donc, par exemple, si vous avez... Donc, ça ne concerne pas uniquement des très grandes fortunes, ça concerne tout un chacun. Donc, si vous avez un appartement ou une petite maison qui vaut 100 000 euros et que vous la louez 300 euros par mois ou 250 ou 350 euros par mois, mettons 4 000 euros par an, bien, ça fait 4% de 100 000 euros. Donc, le rendement de ce capital est de 4%. Alors après, vous pouvez avoir une plus-value en plus qui s'ajoute à ce rendement locatif, ou une moins-value parfois, ça dépend de l'année où vous achetez, l'année où vous vendez. Bon. Et après, d'autres patrimoines, par exemple des actions, plus risqués que l'immobilier, peuvent avoir des rendements qui vont être plutôt de 6, 7, 8%. Des patrimoines très élevés, très diversifiés, très bien investis, peuvent monter à 7, 8%, parfois plus. Mais disons, un rendement moyen du patrimoine serait plutôt de l'ordre de 4, 5% en moyenne. Bon, des tout petits patrimoines placés simplement sur un livret A, comme vous savez, peuvent être plus près de 0% de rendement, de 1%. Mais bon, il y a aussi tout l'immobilier qui est plutôt à 4, 5%, les actions qui sont à 7, 8%. Donc tout ça fait de la moyenne, mettons, vers 4, 5%. Le point important, c'est que quand vous êtes pendant les 30 Glorieuses, en France, donc dans cette période de reconstruction, les 30 ans après
45-75,
vous avez une croissance qui est à peu près de 5% par an, et donc qui équilibre à peu près le rendement du capital, d'une certaine façon. Le malheur, entre guillemets, c'est que ce type de rythme de croissance 5% par an est en fait tout à fait exceptionnel, et à l'échelle de l'histoire, on ne l'observe que dans le cas de pays qui sont en rattrapage par rapport à d'autres pays. Donc concrètement, la France et l'Europe, plus généralement, se sont suicidés de 1914 à 1945, ont détruit beaucoup de richesses, et ont aussi accumulé un retard de croissance énorme vis-à-vis notamment des États-Unis. Et donc, de 1950 à 1975, on a une croissance de 5% par an en France, en Allemagne, simplement pour rattraper le retard, notamment sur les États-Unis. Et un petit peu sur le Royaume-Uni, mais celui-là est plus vite rattrapé. Mais à partir du moment, depuis la fin des années 70, où on a en gros rejoint le niveau de productivité, de revenus moyens par habitant que les États-Unis, tous les pays, à partir du moment où on est à cette frontière technologique ou productive mondiale, on n'a jamais vu de pays croître à 5% par an. À ce niveau-là, on a une croissance de 1% par an, 1,5% par an. Donc on en est très triste parce qu'on continue d'être imprégné de cette vision des 30 Glorieuses, mais en même temps, bon, ça fait déjà plus de 30 ans que les 30 Glorieuses sont terminées, donc il serait quand même temps de bien l'intégrer et de réaliser qu'en fait 1% 600 par an, c'est déjà un rythme assez rapide de croissance. À l'échelle de la très longue durée, si on regarde dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, bon, c'était beaucoup moins que ça. 1% par an, ça paraît comme ça abstrait, un taux de croissance. Peut-être une façon plus concrète de regarder les choses, c'est de se dire sur une génération, sur 30 ans, bah 1% par an, ça fait quand même 30%, enfin même un peu plus, ça se cumule, mettons 35% sur une génération. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un tiers de l'économie qui a été renouvelée à chaque génération. Regardez, sur les 30 dernières années, bon, il n'y avait pas de technologie de l'information il y a 30 ans, donc il y a eu quand même beaucoup de changements. Un tiers de l'activité humaine, un tiers de métiers nouveaux, si vous voulez, qui est renouvelé à chaque génération. Donc c'est pas rien comme changement. Jusqu'avant la révolution industrielle, les structures économiques, la structure des métiers quasiment ne changeaient pas, enfin se reproduisaient quasiment à l'identique d'une génération sur l'autre. Donc un tiers de renouvellement chaque génération, c'est en fait très rapide, mais c'est pas suffisant. Et donc c'est là que le R plus grand que G intervient. C'est pas suffisant, cette croissance de 1% par an, pour contrebalancer le fait que le rendement du patrimoine, s'il est ne serait-ce que 4 ou 5% par an, eh bien cette inégalité entre 4% et 1% veut dire concrètement que les patrimoines accumulés dans le passé font des petits plus vite, enfin se recapitalisent plus vite que ne s'accroisse la production et donc les revenus et donc en particulier les salaires. Donc ça veut dire que c'est très difficile de rentrer dans le jeu si vous avez que votre salaire. Comme
donc ça veut dire, concrètement, ça veut dire qu'il y a le syndrome du rentier qui pèse de plus en plus par rapport à celui qui travaille et qui n'a que son revenu. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le rentier voit sa richesse augmenter d'une certaine façon sans effort. Vous évoquez la dimension du mérite, on va y revenir dans l'utilisation que vous faites du fameux dialogue et du discours de Vautrin, extrait du Père Goriot. Le rentier devient celui qui sans effort domine complètement celui qui travaille. C'est ça l'idée.
Oui, mais je veux insister sur le fait que dans ce paradoxe logique n'admet pas de remède simple, de solution simple. Il y a des solutions plus ou moins compliquées, plus ou moins satisfaisantes, mais il n'y a pas de solution simple, parce qu'en même temps, vous n'avez certainement pas envie de supprimer tout rendement au capital et à mon sens, certainement pas de supprimer toute propriété privée, parce que vous avez besoin de personnes qui innovent, qui entreprennent. C'est simplement qu'à partir du moment où le R est durablement supérieur à G, où le rendement est durablement supérieur au taux de croissance, presque inévitablement, l'entrepreneur ou ses descendants finissent par se transformer en rentier. D'autant plus dans des sociétés où la vie est longue. C'est-à-dire que, c'est pas parce que vous avez inventé de grandes choses à 40 ans qu'à 90 ans, vous faites toujours de grandes inventions. Et néanmoins, le patrimoine continue de se reproduire tout seul. Le patrimoine de Bill Gates, depuis qu'il a pris sa retraite, est passé de quelques milliards de dollars à 50 milliards de dollars. Exactement autant que celui de Liliane Bettencourt, qui est passé en 20 ans de 2 à 30 milliards sans avoir jamais travaillé. Et en même temps, son père, Eugène Schüller, qui avait créé L'Oréal en 1907, qui est vraiment un entrepreneur tout à fait haut en couleur, qui inventait des produits pour les cheveux, qui permettaient d'éviter de perdre ses cheveux et d'éviter qu'ils sentent mauvais. Ça ressemble beaucoup à César Birotteau dans Balzac, sauf que César Birotteau, c'était un personnage de roman vers 1820, où il inventait, si vous vous souvenez, la pâte des sultanes, l'eau carminative, il y avait plein de noms exotiques que Balzac avait trouvé pour désigner cet entrepreneur. Le Père Goriot était dans les pâtes, lui. Bon, tout ça, ce sont des choses très utiles, des entrepreneurs qui inventent des pâtes, des parfums, c'est des choses très utiles pour la vie de tout un chacun. Mais ça arrive. Mais alors dans la vie réelle, Eugène Schüller, le fondateur de L'Oréal, il invente donc l'équivalent de César Birotteau, mais pour de vrai en 1907. Il fait fortune, c'est très sympathique. Le seul problème, c'est que sa fille, 106 ans plus tard, et sans avoir jamais travaillé, et son père qui est mort depuis trois quarts de siècle, est toujours dans les premières fortunes mondiales, et le patrimoine croît au même rythme que celui de Bill Gates. Et là, c'est un peu perturbant par rapport à notre esprit logique, rationnel, méritocratique, où on voudrait que la fortune soit affaire de mérite, et que tant qu'il y a des inventions nouvelles, tant qu'il y a du comportement entrepreneurial, finalement, c'est très bien que tout ça progresse gaiement, mais une fois que ça s'arrête, on aimerait bien qu'il y ait un petit grain de sable permettant à des nouvelles personnes de rentrer dans le jeu. Donc ça, c'est effectivement un des paradoxes logiques que j'explore dans ce livre. Sachant que au-delà de cet aspect un peu théorie pure, il y a toutes ces histoires nationales qui se greffent là-dessus. C'est-à-dire que chaque pays, après, invente des institutions, des politiques, parfois de façon non intentionnelle. Les guerres rebattent les cartes d'une façon qui est parfois imprévue.
Justement, j'ai pas trouvé dans le livre, mais vous connaissez certainement cette phrase de Jean Jaurès prononcée peu de temps avant son assassinat, c'est-à-dire le 31 juillet 14, la guerre est au capitalisme ce que la nuée est à l'orage. Autrement dit, le capitalisme a régulièrement, dit Jaurès à l'époque, besoin de guerre pour, d'une certaine façon, se ressourcer, faire marcher les usines à canon, les fonderies, etc. Mais aussi, alors là, dans une approche qui serait peut-être plus schumpeterienne, avoir de la destruction créatrice. Alors, quand on vous lit, on constate que aujourd'hui, le revenu du patrimoine a atteint en 2013 pratiquement la situation qui était en France celui à laquelle il était en 1913, et que d'une certaine façon, l'épisode de la transitoire des Trente Glorieuses fait que, en l'absence de guerre et de destruction massive, là où le capitalisme a été le plus fort, on est face à presque une contradiction très forte sur le futur du capitalisme, finalement.
Oui, mais enfin, il y a des solutions pacifiques. Moi, je précise quand même que j'ai aucun goût pour les prévisions apocalyptiques et que, voilà, si j'écris des livres plutôt que d'être guérillero, c'est parce que je pense qu'on peut, de façon pacifique et par le débat rationnel, trouver des solutions. Parce que, bon, c'est vrai que les guerres ont joué un rôle considérable dans la réduction des inégalités au XXe siècle. Et ce qu'on a pris pour un dépassement structurel du capitalisme pendant les Trente Glorieuses, c'était en grande partie, en fait, une phase transitoire de reconstruction. C'est-à-dire que pendant les Trente Glorieuses, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un capitalisme sans capitaliste. Alors c'est un peu parce qu'il y a eu les nationalisations, forcément ça limite l'importance des capitalistes privés, mais c'est aussi parce que tout simplement beaucoup de capital, beaucoup de patrimoine a été détruit par les guerres. Donc c'est pas pour une bonne raison, entre guillemets. Disons, c'est pas qu'on est passé à une autre phase du capitalisme, c'est simplement que beaucoup des patrimoines issus du 19e siècle, accumulés jusqu'en 1914 et réaccumulés un peu dans l'entre-deux-guerres et puis immédiatement tombant dans la crise des années 30, dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, dans les années 50-60, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à hériter. C'est-à-dire que le flux de succession de l'assurance annuelle est très très faible, 6 fois plus faible par an dans la Belle Époque et à la veille de 1914. Et donc, il y a cette reconstitution des patrimoines depuis les années 50-60 qui, en soi, est naturelle et est même plutôt une bonne chose. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire le retour des patrimoines, ça pose des problèmes de répartition, d'inégalité, mais c'est en soi, c'est très utile, le patrimoine. Enfin, le fait d'avoir des beaux immeubles et des bureaux et des salles et des équipements et des machines, c'est très utile pour tout le monde. Donc, moi, j'ai aucune nostalgie pour les années 50. Il s'agit pas d'idéaliser ces Trente Glorieuses qui correspondaient à une phase de reconstruction. Et donc, on avait l'impression qu'on avait des inégalités qui passaient uniquement à travers le travail. Parce que c'est vrai que comme il y avait peu de patrimoine à hériter, bon, finalement, ce qui comptait, c'était d'abord l'échelle des salaires. Alors, on pouvait quand même se disputer sur l'échelle des salaires entre l'ouvrier, l'employé, le cadre. Certains auraient dit de 1 à 3, de 1 à 5, de 1 à 10. Mais disons que c'était des inégalités raisonnables. C'est-à-dire qu'on pouvait tout baigner dans une logique de travail, de méritocratique. Alors que les inégalités face au patrimoine, elles sont plus dérangeantes pour l'esprit et par rapport à l'objectif méritocratique qui est exprimé dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Dans l'article 1. Vous avez fait référence à l'utilité commune.
Oui, l'article 1 dit immédiatement que l'inégalité est possible, mais les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune. Donc on peut avoir des inégalités. Supprimer toute inégalité, mais il faut que ce soit dans l'utilité de tout le monde. Il faut caser une justification, il faut caser des raisons. Ils ne peuvent pas être arbitraires, sans raison. Et de ce point de vue-là, les inégalités face à l'héritage sont problématiques, parce qu'on ne voit pas la raison pour laquelle une personne devrait hériter plus que l'autre.
Vous êtes gentil ce soir, parce qu'on est à l'oral, si je puis dire, mais moi, je lis dans votre conclusion, les grandes fortunes démesurées n'ont aucune utilité commune et n'ont pas non plus d'utilité pour la croissance.
C'est du simple bon sens. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, c'est évident que la concentration des patrimoines, enfin, si vous avez une personne qui est aussi riche qu'un pays ou aussi riche qu'un continent, il y a forcément un moment où c'est plus utile. Et le problème, c'est que le système d'économie de marché, à la fois, il est indispensable, le système de prix pour coordonner des millions d'actions individuelles, des milliards de personnes, et on va certainement pas remplacer tout ça par la planification centralisée. Le problème, c'est que le système de prix ne connaît aucune limite, aucune morale. C'est-à-dire qu'il s'applique de façon inconsciente, sans intelligente, sans but, et il peut nous faire dériver sur des niveaux de concentration de patrimoine très très fortes, et presque sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire petit à petit, cette logique notamment du rendement du capital et du taux de croissance nous conduit, y compris dans une économie dynamique où par ailleurs il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein d'inventions, à des niveaux de concentration patrimoniale inouïs. De ce point de vue-là, l'étude du cas français est très intéressante, parce que c'est vrai que la France, bon, la Révolution française est un grand moment pour l'histoire de France et de l'humanité, si j'ose dire, mais la Révolution française ne crée pas une société parfaite fondée sur la justice sociale, mais au moins elle crée un observatoire incroyable des fortunes, parce que tout ce livre, il se fonde d'abord sur des sources, et la Révolution française, c'est la France est le seul pays qui met en place, donc dès 1791, un système de droit de succession et donc d'enregistrement des patrimoines non seulement terriens, immobiliers, mais aussi financiers, étonnamment universel pour l'époque. Universel dans le sens où toutes les formes de richesse doivent être enregistrées. Le taux de taxe est très réduit, c'est-à-dire jusqu'en 1914, les successions ne sont jamais imposées à plus d'un ou 2%, donc ça, il s'agit plus d'enregistrer son droit de propriété pour pouvoir en jouir librement, éventuellement appeler la force publique si un manant cherche à s'en emparer, enfin, donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir enregistrer sa propriété, mais au moins ça crée une source, ces données successorales françaises sont extrêmement riches et permettent de mettre en particulier tout le 19e siècle en perspective par rapport au 20e siècle, alors que, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il faut attendre de 1916 aux États-Unis pour avoir un impôt sur les successions. Donc on ne peut pas du tout mettre toute la Première Guerre mondiale en perspective. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'en France, à la belle époque, on a à la fois une société qui est évidemment innovante, hein, comme aujourd'hui avec Internet. À l'époque, on invente, notamment en France, l'électricité, l'automobile, le cinéma. Enfin, c'est très, très, très innovant comme époque. Et en même temps, on a une espèce de spirale inégalitaire sans fin, c'est-à-dire une concentration des patrimoines en grande partie stérile et avec un niveau de concentration inouï. C'est-à-dire que vous avez à Paris, en 1913, 70% de l'annuité successorale, c'est-à-dire du total des successions transmises à Paris cette année-là, qui correspond au 1% des décédants les plus riches en patrimoine. Et inversement, les deux tiers des décédants n'ont rien à transmettre, un petit peu comme le père Goriot, dont les effets personnels ne peuvent pas payer l'enterrement, les frais d'inhumation. Donc c'est quelque chose quand même d'assez étonnant comme progression, et ça progresse toute la fin du 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, beaucoup d'élites économiques et financières de l'époque refusent totalement ce constat. Alors bon, ils ont très peur de l'homme au couteau entre les dents, ils ont très peur de la révolution bolchevique, sans doute avait-il un peu raison rétrospectivement. Mais enfin, le vrai enjeu à l'époque, en France, ce n'était pas l'imminence d'une révolution bolchevique, c'était est-ce qu'on met en place un impôt progressif sur le revenu, un impôt progressif sur les successions. Et les élites françaises, républicaines, le refusent beaucoup plus longtemps qu'au Royaume-Uni et qu'aux États-Unis, avec un argument imparable qui est de dire « nous, on est le pays de la grande révolution française ». Donc on n'a pas besoin d'impôts progressifs. Le Royaume-Uni, lui, en a besoin parce que c'est une société aristocratique, monarchique, avec des grandes propriétés de terriens. Mais nous, comme on a mis fin à tout ça et qu'on est rentré en République avec une égalité absolue face aux droits de propriété, pas besoin d'aller plus loin. Sauf qu'en fait, le régime politique ne change pas grand-chose. Enfin, moi, je préfère les républiques que les monarchies, mais en soi, ça ne, c'est pas ça qui vous conduit à plus d'égalité sociale. C'est-à-dire que l'égalité formelle des droits face au marché, face aux droits de propriété, avec des marchés très concurrentiels, etc., ça ne suffit pas à conduire à l'égalité tout court. Et je pense que c'est très intéressant, c'est très important de réétudier cette période de la Belle Époque, de ce qu'on appelle souvent la première mondialisation de 1860. À 1914, parce qu'il y a beaucoup de similarités avec la période actuelle, en positif et en négatif. À nouveau, il y avait un côté dynamique dans cette période, n'imaginons pas une société bloquée, mais on a une course en avant vers une concentration croissante de la richesse qui est inquiétant. Est-ce que c'est la raison de la guerre, pour finir? Je ne sais pas. Lénine, il écrit en 1916 « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », donc avec l'idée que les pays capitalistes se fracassent les uns contre les autres parce qu'ils ont besoin de se battre comme la France et l'Allemagne avec la crise marocaine de 1911. Bon, c'est sans doute qu'une partie de l'histoire dans la montée des nationalismes. Moi, je ne cherche pas à donner la raison pour laquelle tout ça s'est terminé comme ça. Mais ce serait absurde. Mais en tout cas, ça crée des tensions sociales qu'on peut sous d'autres formes retrouver aujourd'hui, et des tentations de repli national, bon, certainement pas de guerre en Europe, mais en tout cas de repli national, de repli protectionniste ou de retour de formes de contrôle des capitaux, de repli national qui, dans le fond, ne sont pas source de prospérité. Donc moi, je suis plutôt pour maintenir une certaine forme d'ouverture économique. Mais dans ce cas-là, il faut trouver d'autres voies.
Alors, justement, sur cette période que vous rappelez comme ayant été désignée comme la première mondialisation, celle, on va dire, de la belle époque, enfin des années 1890-1913, les grandes fortunes, par exemple françaises, mais aussi en Europe, investissaient énormément à l'étranger, enfin sur l'ensemble de la planète. Vous citez l'histoire de l'emprunt russe, le canal de Panama, le canal de Suez. Il y a là ces grands milliardaires, on va dire, n'hésitent pas à remettre au pot, on va dire, dans des perspectives de développement, alors avec une volonté de évidemment de faire du profit, bien évidemment. Ici à Bordeaux, par exemple, vous connaissez bien l'histoire sous le Second Empire des frères Pereire, hein, par exemple, hein, qui sont évidemment parmi les banquiers du régime. Bon. Alors, est-ce qu'on trouve de manière un peu structurale des situations comparables aujourd'hui, dans la période 2000-2010-2013, est-ce que la deuxième mondialisation procède, j'allais dire, de lois identiques ?
Alors, par certains côtés, oui, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a, il faut distinguer là, les inégalités à l'intérieur des pays et puis les inégalités entre pays. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas retrouvé à ce jour une situation d'inégalité entre pays qu'on avait à la Belle Époque, où littéralement la France et le Royaume-Uni possédaient une bonne partie du reste du monde. Donc ça s'appelait le colonialisme.
Ça, c'est l'impérialisme, ça.
Oui, concrètement, il y avait un régime politique qui allait avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait un régime de domination politique sur d'autres pays. Parce qu'il faut bien voir que, bon, dans la théorie économique... l'investissement étranger est paré de toutes les vertus. C'est-à-dire, si un pays a beaucoup de capital et qu'un autre a peu de capital, il est logique que le pays qui a beaucoup d'épargne aille investir à Suez, à Panama, parce que voilà, on ne va pas construire des immeubles haussmanniens jusqu'au ciel. Une fois qu'on a construit dans tout Paris, dans tout Bordeaux, dans tout Marseille, dans tout Lyon, allons placer l'épargne à l'étranger, allons investir à l'étranger. Bon, c'est très bien d'un point de vue théorique, mais dans la vie réelle, des situations où un pays possède massivement un autre pays sont des situations difficiles. Parce que, bon, c'est toujours difficile de payer ses loyers à son propriétaire, mais quand son propriétaire est un autre pays et qu'il y a vraiment des transferts massifs, réguliers chaque année, il y a quand même une tentation très forte pour celui qui est possédé, à un moment, d'exproprier le propriétaire. Et c'est quand même plus difficile de se faire exproprier chez soi qu'à l'étranger. Et donc en général, la relation coloniale va avec, parce que c'est comme ça qu'on préserve ses avoirs à l'étranger. Il faut bien comprendre que le but de posséder des avoirs à l'étranger, c'est un jour de pouvoir avoir des déficits commerciaux. Parce qu'actuellement, dans tous ces débats sur les excédents commerciaux, on fait comme si ça pouvait être un but d'avoir des excédents commerciaux à tout jamais. Mais évidemment, ça n'a aucun sens, parce que le but quand même d'avoir des excédents, c'est un jour de pouvoir consommer ce qu'on a accumulé. Et donc, si vous prenez la période de 1880 à 1914, il faut bien comprendre que la France, comme le Royaume-Uni, sont en déficit commercial permanent. Hein, ont 1-2 points de PIB de déficit commercial permanent, c'est un très gros déficit commercial tout le temps, ça ne leur pose aucun problème parce qu'elles reçoivent en loyer, en dividendes, en profit de leurs possessions dans le reste du monde, l'équivalent de 5 points de production, qui serait l'équivalent, si vous voulez, de la production industrielle de tout le nord-est de la France, la partie la plus industrielle, qui arrive en profit, en intérêt, en dividendes, en loyer sur les possessions sur le reste du monde. Donc ça permet à la fois de payer le déficit commercial, et en même temps de continuer d'accumuler sur le reste du monde. Donc autrement dit, le reste du monde travaille pour nous, et en plus, il est de plus en plus endetté vis-à-vis de nous. Donc c'est assez sympathique comme situation, enfin en tout cas pour le possédant. Et c'est quelque chose qui est la logique même de l'accumulation de... Enfin, c'est le but d'être propriétaire, c'est quand même de pouvoir, peut-être pas arrêter de travailler, mais en tout cas consommer plus que ce que le revenu du travail apporte. De ne pas avoir à payer le loyer soi-même, de pouvoir avoir un petit supplément d'intérêt de dividende. C'est le but même d'être propriétaire, mais déjà, ça peut être difficile à accepter à l'intérieur d'un pays parfois, mais alors vraiment, entre pays, c'est assez dangereux. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas retrouvé encore des situations... Ah, il faut bien se rendre compte qu'actuellement, en France, on a très peur de se retrouver à nouveau dans ce type de situation, mais dans l'autre sens, oui, hein, dans le rôle du possédé et non du possédant, et c'était d'une peur compréhensible. En même temps, on n'en est absolument pas là, comme je le disais. On n'en est pas là dans le sens où le type de position extérieure en termes d'actifs possédés à l'étranger que possédaient la France, le Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Et les pays riches, en fait, sont dans des situations relativement équilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, les Français s'en rendent pas forcément compte parce que la complexité du système financier fait qu'on ne voit pas forcément, quand on a 100 000 euros sur son contrat d'assurance-vie, en fait, une bonne partie a été s'investir au Brésil, en Chine, etc. Mais la vérité, c'est que les Français possèdent collectivement autant de choses, autant d'actifs financiers dans le reste du monde que le reste du monde en possède en France. Maintenant, ça pourrait changer. C'est vrai que il faut bien voir que un grand système de liberté de mouvement des capitaux, avec aucun échange automatique d'informations bancaires, aucune possibilité de réguler par l'impôt ou par d'autres modes de régulation les déséquilibres qui peuvent en découler, peut tout à fait conduire à des positions positives ou négatives absolument massives et qui ne seront pas acceptées. Enfin, sauf à imaginer à nouveau des situations de domination politique proche de l'époque coloniale, ce qui n'est pas facile à concevoir. Donc on parle de, enfin voilà, la possession, c'est toujours plus que l'argent, quoi. C'est aussi la dignité, la liberté, l'honneur des personnes. Et on est très loin d'avoir une nouvelle Première Guerre mondiale. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais simplement il faut. Je pense qu'il est temps de reprendre le fil de cette histoire, de regarder de façon sereine, posée, comment les choses ont évolué les dernières fois, c'est ça que j'essaye de faire. Après, on peut être en désaccord avec toutes les solutions proposées à la fin, mais l'histoire en tant que telle, je pense, a un certain intérêt pour
donc,
tout le monde.
Dans le livre, vous évoquez aussi bien au début du chapitre, du premier chapitre, ce qui s'est passé à Johannesburg auprès dans la mine de Marikana, où on a fait tirer sur des mineurs qui demandaient une augmentation de revenus, de salaires, et puis finalement, le 16 août 2012, la police sud-africaine intervient dans le conflit opposant les ouvriers de la mine de platine de Marikana près de Johannesburg aux propriétaires de l'exploitation, les actionnaires de la compagnie Lonmin basée à Londres. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les grévistes, bilan 34 morts parmi les mineurs. Comme souvent en pareil cas, le conflit social s'était focalisé sur la question salariale. Les mineurs demandaient que leur salaire passe de 500 euros par mois à 1000 euros après le drame. La compagnie proposera finalement une augmentation de 75 euros par mois. Et vous faites référence, bien sûr, par rapport à ça, à Haymarket Square, Chicago, 1er mai 86, Fourmis, 1er mai 91. Je rappelle que le fondateur du 1er mai en France, Raymond Lavigne, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, est enterré au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Il faut le savoir. Est-ce que, vous dites, l'affrontement capital-travail appartient-il au passé ou bien sera-t-il l'une des clés du 21e siècle ?
Oui, bon, la réponse est un peu dans la question suite à le rappel de cet épisode de l'été 2012 en Afrique du Sud. C'est évidemment une des clés de l'avenir. On a cru que le capital avait disparu, ou du moins avait été remplacé par le capital humain. On s'est raconté plein de belles histoires, notamment pendant les Trente Glorieuses, pour se convaincre.
Mais même un conte de fées, vous dites Kuznets, c'est un conte de fées.
Oui, donc. Mais c'est-à-dire qu'on a tous tellement envie aussi de croire dans un espèce de progrès social indéfini, et il y a des formes de progrès social. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est retourné au 19e siècle, exactement. Il y a plein de choses qui sont beaucoup mieux dans le monde actuel qu'au 19e siècle, c'est évident. Mais on a tellement envie de croire dans un progrès indéfini qu'on a tendance parfois à se raconter des belles histoires pour expliquer ce problème, et des belles histoires qui ne sont pas forcément vraies. Donc, parmi ces belles histoires, il y a cette idée de la montée permanente du capital humain par rapport au capital plus traditionnel, immobilier, financier, professionnel, enfin non humain. Le capital vraiment qui peut se vendre. Bon, en fait, c'est un peu une belle histoire, pas complètement vraie. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de qualifications. C'est beaucoup, le niveau moyen de qualification, donc de capital humain, aujourd'hui, est beaucoup plus élevé. Mais il y a aussi beaucoup plus de capital immobilier professionnel, parce qu'on a besoin on vit dans des appartements beaucoup plus grands qu'il y a un siècle. On utilise beaucoup plus d'équipements, de machines, de bureaux, de brevets. Et au total, l'équilibre entre le capital non humain et le capital humain n'a pas vraiment changé, tout simplement parce qu'on a toujours autant aujourd'hui besoin de machines, d'équipements, d'immeubles, et peut-être que demain on aura encore plus besoin de robots de toutes sortes, et qui font que, en fait, l'équilibre, il n'y a pas de raison de penser que le progrès technique, que la rationalité technologique et économique mène à la rationalité démocratique et méritocratique. Il n'y a pas de raison. Ça pourrait aussi arriver, mais bon, on n'est pas obligé de jouer avec les dés, quoi. C'est-à-dire que il n'y a rien dans la logique du développement économique et du progrès technique qui le garantit. Ça permet d'améliorer le niveau moyen de richesse, le niveau moyen de vie, ce qui est déjà énorme. Mais il faut ensuite d'autres institutions pour orienter tout ça dans la bonne direction et pour faire du marché, de la propriété privée, notre esclave et non pas le contraire.
Alors c'est pour ça que j'en viens tout de suite à une proposition que vous faites. Vous plaidez pour l'exigence d'un très haut degré de coopération internationale ou d'intégration politique régionale Vous dites que cette voie n'est pas à la portée des États-nations existants aujourd'hui, sur lesquels se sont bâtis les compromis sociaux précédents, mais il faut à tout prix arriver à un niveau d'intégration zonale ou régionale. Et vous dites clairement l'Europe et les États souverains qui constituent l'Europe aujourd'hui ne sont pas de taille individuellement à rentrer dans cette logique. Alors, c'est là qu'arrive une solution que vous proposez, page 943, un impôt progressif annuel sur le capital, hein, vous allez même jusqu'au détail des tranches. Merci pour l'opportunité de l'actualité, parce que on est en plein dedans là. Sur mon iPhone, j'ai copié une alerte du Monde ce matin évoquant, selon Bercy, 7,15 millions de ménages sur 36,39 millions connaissent une hausse de l'impôt qu'ils paieront sur le revenu de 2012. À l'inverse, 8,9 millions de foyers, soit 24,4% du total, voient leur impôt baisser. Donc on est en plein dans l'actualité. En plus, c'est la semaine de la loi de finances. Hein. Alors, est-ce que et vous avez vu que dans tous les écrits et les commentaires qui ont été faits sur votre ouvrage, je prends le Monde des livres, un échange entre d'un côté Jean-Marc Daniel, économiste, historien, l'impôt sur le capital mondial n'est pas la solution, et puis François Chesnais, comment desserrer les taux de l'oligarchie financière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet d'impôt progressif annuel sur le capital? Et cette idée d'intégration zonale ou de politique régionale, avec le risque qu'on vous dise bien sûr que vous êtes en pleine utopie, puisque c'est le reproche qu'on vous a fait.
Oui, moi, c'est tout à fait normal que les gens se disputent sur cette question, ne soient pas d'accord. Et le but de la recherche en sciences sociales, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, c'est juste d'aider chacun à se faire son opinion. Donc dans la dernière partie du livre, hein, j'insiste sur ça fait quand même 150 pages, mais sur 950, oui. Donc c'est vraiment la toute fin.
Réguler le capital au 21e siècle.
Oui, je fais quelques propositions. En même temps, en vérité, même dans cette partie, je refais beaucoup l'histoire de l'impôt, notamment de l'impôt progressif sur le revenu, et finalement, j'amène l'histoire des banques centrales, et j'arrive à l'impôt progressif sur le capital. Donc, je ne demande pas à chacun d'être forcément d'accord avec ces propositions. Le but, c'est plutôt que chacun puisse en faire. Je dis juste que la chose suivante, c'est que... Disons, si on veut préserver l'ouverture économique, commerciale, financière, qui en soi est plutôt une bonne chose, je pense qu'on a besoin d'une solution coopérative, fiscale, internationale, idéalement au niveau mondial, de façon plus réaliste au niveau de européen, américain. Il peut y avoir des accords internationaux, par exemple d'échange d'informations bancaires, d'informations fiscales, comme ceux qui se discutent actuellement au G20, en Europe, aux États-Unis, sauf qu'il faudrait les faire pour de vrai. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'on est là, on est beaucoup plus actuellement. Sur ces questions, il y a souvent un gouffre abyssal, comme je l'écris, entre les proclamations victorieuses des gens qui nous gouvernent et la réalité de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a... Donc là, il y a un besoin, je pense que tout le monde s'empare de ces questions et puisse faire la différence entre des annonces totalement floues et des choses concrètes. Et je pense que l'avantage d'une solution du type impôt progressif sur le capital, c'est qu'on voit à quoi servent ces échanges d'informations dont on nous parle. C'est-à-dire le premier objectif, même si le taux de l'impôt était très faible, c'est simplement de savoir qui possède quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une situation où les États, et même le Fonds monétaire international, d'ailleurs, qui prétend réguler la crise mondiale, n'a aucune idée de qui possède les entreprises. C'est-à-dire les structures d'actionnariat croisées entre pays, entre institutions financières, sont telles qu'on ne sait pas les choses. Donc la première chose dont on a besoin, c'est ce que j'appelle un cadastre financier du monde. C'est-à-dire c'est un peu comme le cadastre de la Révolution française, sauf que là, ça a besoin d'être beaucoup plus financier, puis surtout beaucoup plus international, parce qu'on est dans une situation où la libéralisation effrénée des flux de capitaux fait que on a des positions croisées entre pays qui sont devenues énormes. C'est-à-dire qu'on possède, autant à l'étranger que ce que l'étranger nous possède, mais dans les deux cas, ce sont des balances absolument énormes. Donc finalement, il y a la moitié des grandes entreprises françaises ou la moitié du patrimoine financier français qui est possédé par l'étranger. Bon, après, les Français possèdent l'équivalent ailleurs, mais chacun se tient dans des proportions avec des structures d'actionnariat croisées tellement complexes, tellement impliquées, que sans échange automatique d'informations et sans la perception d'un impôt minimal permettant d'établir ce droit de propriété et de savoir qui possède quoi, les États sont dans une incapacité non seulement seulement de prélever l'impôt, mais aussi de faire de la régulation des crises bancaires, par exemple, quand on a des banques ou parfois des pays qui font faillite, comme à Chypre l'an dernier. Le Fonds monétaire international nous disait, voilà, il y a des grands oligarques russes qui possèdent plein de fonds dans les banques chypriotes, donc on ne va quand même pas utiliser l'argent du contribuable européen pour les renflouer, et ils avaient sans doute assez raison. Sauf que pour finir, au moment de faire payer les oligarques russes, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une taxe qui taxait au même taux les déposants avec 10 000 euros ou 5 000 euros sur leur livret d'épargne que les supposés oligarques à 10 millions. Et le Fonds monétaire international et l'Union européenne disaient « Oui, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a aucune information en fait sur qui possède quoi donc dans les banques. » Donc on est obligé de mettre le même taux sur tout le monde. Sauf que tout le monde a dit « Mais attendez, c'est quoi ce délire ? On ne peut pas faire payer autant quelqu'un sur son livret d'épargne et quelqu'un qui a des dizaines de millions. » Donc le truc a été annulé et c'est bon. Et plus personne en Europe n'était là pour défendre cette mesure qui avait été pourtant prise à l'unanimité des ministres des Finances. Donc là, on voit bien les limites de ce qu'on peut faire en termes de régulation financière, bancaire, de régulation du capitalisme en général, sans le type d'outil que je décris, qui est parfaitement à la portée des pays, pour peu qu'ils se mettent ensemble. Donc c'est vrai que la France ou l'Allemagne tout seul, à l'échelle du monde, seront bientôt minuscules. Mais par contre, l'Union européenne, c'est quand même un quart du PIB mondial, un quart de la production mondiale. Les États-Unis, c'est à peu près un quart. La Chine, c'est 20%. Bon, c'est beaucoup, un quart du PIB mondial. On peut faire beaucoup de choses si on se met ensemble, ou au moins si les pays au cœur de la zone euro se mettent ensemble. Alors maintenant, il y a plein d'autres solutions que cette solution coopérative. Il y a des formes de repli national qui sont plus facile d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un pays d'essayer de se protéger face à la mondialisation en mettant, par exemple, différentes formes de contrôle des capitaux, de dire, bon, voilà, à partir de maintenant, les étrangers ne peuvent pas acheter, par exemple, des immeubles à Paris, des entreprises. Simplement, c'est une forme de régulation qui est un peu illusoire, parce que, dans le fond, bon, les oligarques français ne sont pas forcément plus sympathiques que les oligarques étrangers. Enfin, il y a une logique d'inégalité patrimoniale l'idée qu'on va mieux la régler à un niveau national, enfin surtout au niveau d'un pays. Bon, un pays de très grande taille comme la Chine ou même les États-Unis peut d'une certaine façon faire ça plus facilement. Il y a des pays où l'Europe pourrait le faire, avoir un certain nombre de contrôles à ses frontières. Mais un pays de la taille de la France, de l'Allemagne, peut le faire, mais simplement ça risque de mener à des frustrations. Parce que, pour finir, on va quand même sans doute perdre une partie des avantages de l'ouverture économique commerciale. Et pour finir, ça risque de mener à des frustrations plus terribles encore que la voie coopérative, bon, qui est difficile, mais qui est indispensable. Juste, j'ai peut-être oublié de préciser, par rapport à l'impôt progressif sur le revenu, hein, la différence importante, l'impôt progressif sur le capital, c'est qu'il s'agit vraiment d'imposer ce que détiennent les uns et les autres, non pas ce que vous gagnez dans l'année, mais ce que vous détenez. Ça peut être en immobilier, ça peut être en actifs financiers, surtout pour les patrimoines les plus importants. Bon, il y a des formes d'impôt sur le patrimoine qui existent déjà, comme l'impôt sur la fortune en France, mais qui prélevait à un niveau d'un pays individuel avec aucun échange automatique d'informations ne fonctionne absolument pas. Donc on est trop béant. Enfin, on est quand même dans une situation où un président de la République peut ne pas savoir que son ministre du budget a un compte à 3 heures de TGV de Paris. Donc on est quand même encore plus près que de Paris à Bordeaux. Et bon, visiblement, et une nanoseconde de courrier électronique, mais visiblement, le tuyau est bouché. Donc on part de loin quand même en termes d'échange d'informations.
Moi, je retiendrai, hein, vous dites qu'il faut absolument, d'une certaine façon, s'engager, hein, ne pas démissionner pour éviter cette belle phrase que le passé dévore l'avenir. Hein, voilà, ça c'est une belle phrase parce que j'ai même encadré, vous voyez, le passé ne doit pas dévorer l'avenir. Tout simplement, il ne faut pas que d'une certaine façon, l'histoire, mais aussi les conditions d'accumulation du capital et du patrimoine deviennent finalement une sorte d'hypothèque géante par rapport à l'avenir. Voilà.
Oui, puis il ne faut pas laisser l'économie aux économistes, c'est trop important. Et il ne faut pas. Non, mais il faut arrêter de se dire moi, je ne connais rien à l'économie, tout ça, parce que c'est une façon de démissionner. En fait, tout le monde a une opinion forte, comme dans le passage que vous citiez tout à l'heure, tout le monde a une opinion forte sur l'inégalité des revenus, des fortunes, et c'est bien normal, ça concerne absolument tout le monde. Mais il ne faut pas. Je pense que c'est important de réaliser qu'il n'y a aucun savoir technique inaccessible. Je crois qu'en fait, tout le monde en est convaincu et regarde plutôt le supposé savoir technique des économistes avec beaucoup de suspicion, ce qui est bien justifié. Mais en même temps, l'État suivante qui est de s'approprier soi-même ces questions et de se faire entièrement sa propre opinion sur, voilà, la croissance du PIB, l'évolution des revenus. Enfin, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Hein. Je veux dire, on peut s'intéresser aux inégalités en maniant à la fois la matière littéraire, parce qu'elle est très riche, elle a une puissance évocatrice qu'aucune statistique ne peut atteindre, et en même temps en maniant les statistiques, voire une ou deux équations, quand c'est nécessaire. Mais uniquement quand c'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'en faire plus que nécessaire. Je pense que c'est important que tout le monde s'approprie.
À propos de la politique, j'ai dit tout à l'heure qu'en 2006-2007, vous avez clairement soutenu Ségolène Royal. En mars 2012, vous avez été parmi les économistes qui ont signé un appel à voter pour François Hollande. Je disais récemment que François Hollande avait reçu à déjeuner, je crois, Daniel Cohen, Pisani-Ferry, etc. Est-ce que vous conseillez toujours François Hollande? Retiré des voitures.
L'engagement politique, il peut pas se limiter aux élections, mais il comprend les élections. Donc moi, comme tout le monde, je vote une fois tous les 5 ans, et je pense que c'est normal de dire publiquement dans les gens qu'on croise ou dans les différents endroits où on s'exprime, aussi bien en famille que dans un meeting ou n'importe où, pour qui on vote, parce que c'est trop facile de dire les deux candidats sont nuls et il faut trouver le moins mauvais des deux. Et donc moi, je m'astreins à le faire. Peut-être qu'un jour je me résoudrai à l'abstention, mais je crois pas. Je pense que c'est important. C'est important de s'engager. Donc je l'ai fait en 2007, en 2012, et c'est vrai que dans les deux cas, je pensais qu'il y avait donc un candidat qui était plutôt mieux que le candidat Sarkozy. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est mieux que Sarkozy, c'est un candidat formidable. Et puis on a le droit de ne pas être d'accord là-dessus. Pour moi, ce n'est pas une guerre de religion, la gauche et la droite. La gauche a fait toutes sortes de bêtises au XXe siècle, peut-être un peu moins que la droite, mais ce n'est pas toujours clair. Bon, pour moi, ce n'est pas une guerre de religion. Et surtout, l'engagement politique ne se réduit pas aux élections, parce qu'on ne va pas... Il n'y a pas d'un côté comme ça une fine élite de responsables politiques qui serait responsable de tout, et puis de l'autre une armée de spectateurs qui serait juste bon à mettre un bulletin de vote dans l'urne tous les 5 ans. Donc moi, ce qui est beaucoup plus important pour moi comme engagement politique que de soutenir Hollande ou Royal, c'est d'écrire des livres, d'écrire des tribunes dans lesquelles on essaye de prendre position face au monde comme il existe, d'essayer d'être en cohérence entre son travail de chercheur et sa position de citoyen qu'on a tous avec beaucoup de limites dans ce qu'on sait et dans ce dont on est sûr. Et moi, je suis pas sûr de grand chose. J'essaye de progresser, mais tout reste très incertain et c'est bien normal qu'on en débatte. Moi je compte beaucoup plus sur l'appropriation par tout le monde de ces questions. Je pense qu'en fait, parfois, les responsables politiques, c'est plutôt eux qui sont l'esclave des citoyens ou des militants ou parfois des gens qui écrivent des livres que le contraire. C'est-à-dire que les discours de responsables politiques sont parfois d'un flou infini, justement pour ne se prémunir contre la possibilité d'être contredit le lendemain par ses troupes. Et donc finalement, ne font pas toujours beaucoup de politique.
Mais écoutez, je crois qu'on peut vraiment vous remercier parce que c'était promis pour être passionnant.